Bonjour, bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 205. Mon nom est Paul Andréau et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Et on enregistre cet épisode spécial, en fait, cinéma québécois spécial Prends Secours et RVQC, parce qu'on est à quelques heures à peine du lancement de cette nouvelle édition des Rendez-vous Québec Cinéma.
Oui, donc au moment... Ouais, vas-y. Oui. Caroline, je te coupe déjà, ça commence bien.
Ben, qui est bien sûr, c'est ça, la grande célébration annuelle de notre cinéma. Et c'est ça, on est à quelques heures à peine du lancement avec le film Les Nôtres de Jeanne Leblanc qui ouvre donc cette nouvelle édition.
Mm-hmm. Puis ben, c'est ça, donc au moment où on enregistre, on l'a évidemment pas encore vu, mais au moment où le podcast va être en ligne, on l'aura vu parce que ça sera pas en ligne mercredi. Là. En tout cas, on enregistre là, genre à une heure avant la première. En tout cas, tout ça pour dire que...
Fait que là, on enregistre dans le fond deux versions. Une version, on est full positif, une version, on est full négatif. Puis là, dans le fond, au montage, on va choisir ce qui correspond. Là.
Ouais, ok, ouais, on devrait
faire ça. Fait qu'on dit plein de mots-clés, genre des keywords, puis là, tu les plugs, Pascal, dans le
mais,
montage. Let's go.
Mais j'ai quand même une primeur, parce qu'en fait, j'ai eu la chance de voir le film Jusqu'au déclin de Patrice Laliberté en projection de presse.
Donc le premier film Netflix, premier long métrage de fiction québécois.
Oui, absolument. Puis vraiment avec une distribution 5 étoiles. Là. Bon, Marc-André Gandin, Marine Castonguay, Marc Beaupré, Réal Bossé, Guillaume Cyr. Puis c'est mené majoritairement par Guillaume Lorrain et Marie-Évelyne Lessard. Marie-Évelyne Lessard, d'ailleurs, c'est vraiment une révélation, là, je pense, dans ce film-là. Là. Si on la connaissait pas ou peu, je pense qu'elle ne laissera personne indifférent. Je vais faire un synopsis rapide. Je vais vraiment essayer de faire une appréciation plutôt vague parce que là, évidemment, au moment où j'en parle, d'un, je suis le seul des trois à l'avoir vu. Je sais qu'il y a beaucoup de curiosité qui entoure ce film-là, beaucoup d'attentes aussi. On en avait même parlé à l'épisode spécial 200 avec Maestro en question, avec Patrice Laliberté en question. Et c'est ça, lui, il semblait dire... Ben, les gens l'attendent, mais on sait jamais, comme vu que Netflix arrive, tu sais, un peu en défonçant la porte, puis avec quand même une réputation qu'on aime ou qu'on aime pas, là, en tout cas.
Ouais. Et non seulement les gens, mais aussi comme, tu sais, c'est en train de chambouler un peu les institutions, puis, tu sais, la manière même de faire du cinéma au Québec. Mm-hmm. Parce que, par exemple, tu sais, la société de production Couronne Nord, eux, justement, ils devaient faire un dépôt pour un autre projet, parce que ça fait quand même un bout qui est tourné, celui-là. Et, tu sais, les institutions sont comme « Ah, ben, techniquement, vous n'avez pas fait de sortie en salle, mais sont comme « Oui, mais on va produire un film qui va être vu par des millions de personnes. »
Ouais,
c'est juste ça, c'est vraiment en train de c'est ça, faire l'électrochoc, un peu comme on en avait déjà parlé. Et, tu sais, moi, je suis sûr que pour le meilleur et pour le pire, il y aura un avant et un après. Mm-hmm. Mais moi, je suis très excité de voir non seulement le film, mais aussi comme un peu l'impact que ça va avoir sur l'industrie au complet.
Ouais, absolument. Puis, ben, tu sais, il y a aussi sorti en salle, il y aurait une façon d'un petit peu pallier à ce non-sens-là par des cinémas qui ont le champ libre, là, d'une certaine façon. Donc, tu sais, on sait que le cinéma moderne, par exemple, ils en diffusent, tu sais, ils ont diffusé pendant longtemps Marriage Story ou The Irishman. Donc, tu sais, si, je sais vraiment pas, là, je suis à travers mon chapeau complètement, mais tu sais, si jamais peut-être le film pouvait se faufiler quelques projections par cinéma moderne.
Non, mais il y a déjà une sortie prévue à la Cinémathèque, là, c'est déjà annoncé, là. À partir du 13 mars, je crois. Oh. Et le film sort sur Netflix mondialement le 27 mars. Il y a peut-être certains territoires qui sont exclus, mais en tout cas, du moins au Canada, c'est le 27 mars qu'on va pouvoir tous le voir sur Netflix. Sinon, il est présenté au Rendez-vous de Québec Cinéma.
Ouais, c'est ça, en grande première. Donc, c'est vraiment là, je pense que ça va donner un premier boom. Puis, on sentait...
À l'impérial aussi.
Ouais,
là,
à l'impérial.
De luxe, là.
Ouais, absolument, absolument. Moi, en tout cas, si un jour un de mes films joue à l'impérial, ce serait comme un goal, là. C'est comme un objectif, là. Ce serait un check, check in the box, comme on dit en bon français, là. C'est vraiment... Ouais. C'est
donc,
une très belle salle. Alors, le film.
Le public de la première mondiale, là, est-ce qu'ils vont pouvoir s'attendre à un bon film familial pour tous, là?
Ouais, c'est ça. Ben déjà, je veux juste vous dire, à la projection de presse, ça faisait un certain temps que je n'étais pas allé dans les projections comme ça le matin avec évidemment la presse. Et il y avait vraiment une excitation. Je pense que tout le monde, on sentait que les gens étaient vraiment curieux de le découvrir. Ça s'explique drôlement, mais ça, c'est rarement des projections où il y a de l'électricité dans l'air. Puis ce matin, il y en avait, comme. Puis les gens ont réagi fortement à la proposition pendant la projection. Ce qui est traditionnellement, ça réagit plus, c'est plus dans l'intellectualisation, en tout cas, souvent, là, dans les projections de presse. En tout cas, bon, tout ça pour dire
ouais,
que...
Les gens viennent comme avec des calepins, puis prennent des notes dans la salle. Là,
des fois.
Ils ont des petites lumières, tu sais. Les gens sont moins focussés sur le film comme un spectateur qui se laisse porter. Là. Ben, et les gens s'attendent à écrire un texte, donc... Ils sont plus près à ça, là.
Mais moi, vraiment, la première chose qui en sortant du film, ben, je vais vous vendre la mèche. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment. Plus que ce que je m'attendais, même. J'aime le travail de Patrice, ça, c'est pas... même lui, on dirait que quand il en parlait un peu en demi-mesure. Tu sais, c'est un film divertissant, hein, puis tu sais... Tu vas voir, là, tu sais, c'est pas très intellectuel. Tu sais, il me disait ça un peu comme dans ces termes-là. Là, j'étais comme, OK, ben là, coudonc, OK, tu sais. Mais, puis, c'est vrai, d'une certaine façon, mais et c'est un thriller, mais ça marche diablement bien, là, dans ses forces, en fait, dans ce qu'il essaie de faire. Moi, quand je suis sorti de la salle, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait, tu sais, le spectre là, de Jérémy Saunier qui avait veillé, là, avec un sourire en coin sur ce film-là.
Hey, ça me faisait penser à ça aussi, là, le trailer.
Ouais. T'sais, du thriller intelligent sans être intellectuel. T'sais, c'est juste par comment le film est mis en scène, par les dispositifs cinématographiques, donc mouvement de caméra, choix de cadrage, design sonore, musique, rythme, tout ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment maîtrisé, en fait. Donc, c'est son premier long, mais son deuxième long, hein, Patrice. Là, c'est comme une. Il a comme une carrière un peu particulière en ce sens, parce qu'il a réalisé un film avec talent en vue qui n'est pas encore sorti en salle, parce qu'ils ont eu l'aval de Netflix. Et puis là, évidemment, ils ont mis la machine pour ce film-là. Mais quand même, mettons qu'on en parle d'un premier long, ou du moins la première fois qu'on voit une œuvre de cette envergure-là d'un cinéaste, là, ça arrive vraiment bien affiché, là, fortement, farouchement. C'est un scénario co-écrit aussi, il l'a signé aussi avec Charles Dionne puis Nicolas Krief. Nicolas Krief aussi, qu'on connaît un peu, là, je suis un peu biaisé, mais tu sais, c'est un amoureux du cinéma de genre aussi, tu sais, c'est un cinéphile, mais tu sais, très décomplexé dans ses goûts cinéphiliques. Je pense que Patrice aussi, tu sais, même son amour des jeux vidéo, il y a comme quelque chose qui se fait ressentir, mais il y a quelque chose qui n'est pas du tout poseur dans le film. Tu sais, on sent que quand il y a une scène, je sais pas, moi, une chasse avec des guns... On dirait qu'on la sent, l'excitation. C'est pas juste comme un cinéaste qui regarde ça de loin ou qui filme ça de loin ou qui se dit « Ah ouais, c'est à peu près de même qu'il faut que je fasse mes scènes d'action. » Non, je sais pas. T'as comme l'impression qu'il vient plus de l'intérieur de ce cinéma-là, là, tu sais, comme avec une vraie passion derrière tout. Mm-hmm. Puis vraiment, non, c'est ça, une maîtrise technique là, de A à Z. Casting, je l'ai mentionné, là, un casting vraiment solide. Je vais faire un synopsis très rapide quand même. Le film ouvre avec le personnage de Guillaume Lorrain, survivaliste invétéré, qui suit le personnage de Alain. Interprété par Réal Bossé, il le suit à travers ses vidéos YouTube là, ou autre. Là. C'est un influenceur de survivaliste, en fait. En soi, c'est assez intéressant. Puis là, lui, il fait une genre de séminaire de formation pour survivalistes dans un coin reclus, caché du nord du Québec. Là. Même lui, il se protège de tout. Il t'arrive là, il te met... Il te bande les yeux, puis il prend ton téléphone cellulaire, puis let's go, t'as aucune idée où c'est que tu t'en vas. Donc déjà là, ça instaure un setup assez inquiétant de par le fait qu'on rentre dans un huis clos où il n'y a pas... un peu la facilité du film, tu sais, du thriller ou du film d'horreur contemporain, c'est tout le temps un peu les fucking cellulaires, tu sais, puis je trouve que le film-là, finalement, il se sort de ce problème-là d'une façon qui est narrativement intelligente, au fait.
Ouais.
Fait que là, c'est ça, on a ce groupe-là, comme je les ai mentionné un peu tantôt, Marc Beaupré. Marc Beaupré, il est incroyable. Marc Beaupré, là, sérieusement, là, c'est un des fucking meilleurs comédiens au Québec, là, puis c'est il est fucking incroyable, puis il est encore incroyable. Fait que Marc Beaupré, bien que Marc Beaupré, on a un personnage assez explosif, là, vous verrez. Et... disons que, pour être hyper vague, la formation va pas comme elle devrait se passer. Puis là, après ça, il y a comme un jeu de chat à la souris qui s'installe. Fait que ça, c'est vraiment tout ce que je peux dire pour le synopsis.
Tu sais, on est devant un cas de production qui est assez rare au Québec où c'est effectivement le premier long donc d'un jeune cinéaste qui a quand même fait des courts-métrages, la web-série, des trucs comme ça. Quelle expérience, mais tu sais, il y en a à chaque année. Là, des... Puis d'ailleurs, on va en parler en long et en large pour le reste de l'épisode dans le cadre du Gala France Secours.
Exactement.
Mais d'habitude, ces cinéastes-là suivent un peu un parcours similaire au tien, Pascal, c'est-à-dire premier long là, fait de manière semi-indépendante avec à peu près pas de sous et on fait ce qu'on peut. Et peut-être même qu'on choisit un scénario en fonction du fait qu'on le sait qu'on n'aura pas de budget. On se limite puis on se dit, écoute, si on peut faire trois personnages au de 5 serait pas pire, tu sais. Et il y a combien de longs, des premiers longs au Québec, c'est... Puis il y en a qui sont très bons, là, tu sais, j'enlève rien à ça, mais c'est sûr que là, j'ai l'impression que pour une fois, un jeune cinéaste, là, tu sais, qui en mange du cinéma, là, qui veut en faire, là, se fait donner des outils, c'est-à-dire un budget conséquent pour aller chercher, j'imagine, quand même une équipe assez importante et pour justement pouvoir se gâter au niveau de la technique, tu sais. Fait que ça, j'ai l'impression que ça se ressent, puis j'espère que ça sera pas la dernière fois que ça va arriver. J'espère que justement, ça va inciter les institutions et Netflix et d'autres à produire plus de gros films pour des premiers films.
T'sais. Ben, c'est vraiment le cobaye, puis je pense que c'est vraiment pari réussi. Puis tu dis se gâter avec la technique, oui, mais le scénario, il est écrit d'une façon intelligente parce que j'ai l'impression qu'il aurait pu faire le film avec moins d'une certaine façon. Sauf que là, le fait d'avoir un peu plus de confort au niveau, tu sais, peut-être ça nous achète du temps. Puis ça fait en sorte qu'il y a certains éléments comme, tu sais, des effets visuels qui sont pas des effets visuels qui sont faits pour être vus, mais tu sais, je sais qu'il y en a évidemment, tu sais, juste tout. Les effets balistiques, j'imagine qu'il y a beaucoup d'effets analogues, mais c'est sûr qu'il y a quand même un peu d'embellissement numérique un peu partout, là. Je pourrais pas dire où exactement, mais bon. Mais c'est surtout aussi, je pense qu'il a pu aller plus loin en amont, tu sais, il y a par exemple, moi je pense qu'une des grandes étoiles du match, c'est par exemple les chorégraphies des combats, des batailles. C'est... D'habitude, là, dans un film, il va peut-être avoir un superviseur de cascade sur un film fauché, il va avoir un superviseur de cascade on set, tu vas avoir répété un peu, puis après ça, tu fais les angles de caméra qui fait que tu t'en tires le mieux pour que ça ait l'air réaliste et tout. Mais là, non, là, on est vraiment comme, tu sais, comme quand je faisais la comparaison avec Jérémy Saunier, il y a des scènes là, de bataille, là, donc, où on est là, dans une chorégraphie, c'est au corps de tour, mais on n'est pas en train de déguiser... puis de montrer peu pour le cacher. Non, on est vraiment comme... Ils sont allés à fond, la chorégraphie est bien faite, les mouvements de caméra, tout est visible aussi, donc la chorégraphie est visible. Ça, c'est du réel travail.
Le luxe, c'est comme le temps. Là.
Ouais, c'est ça.
Le luxe, c'est le temps, puis c'est la préparation, parce que, comme tu dis, souvent, t'arrives sur un set, puis t'as le coordonnateur de cascade qui est là, il fait pratiquer les comédiens une demi-heure, 45 minutes dans un coin... Puis là, t'as à peu près quelque chose, mais tu sais, si t'as le temps d'avoir une journée ou deux, d'avoir des répètes avec une vraie chorégraphie qui est gérée, que les acteurs aient le temps de l'apprendre, ben c'est payant, puis ça paraît à l'image, là.
Non, exact. Donc non, c'est ça, tu sais. Puis, écoute, le film n'est pas... Si je voulais être... j'ai quand même certaines critiques. Si on l'avait vu à trois... ou au pire, tu sais, on pourrait le réaccrocher en express peut-être dans un autre épisode, parce que tu sais, si je rentre dans certains petits mini bémols que j'ai, on va rentrer un petit peu trop profondément dans le synopsis, puis j'ai pas trop envie, je pense que c'est un film qui se découvre bien, mais juste comme qui fonctionne aussi bien viscéralement comme thriller, en soi, québécois, je le compare à quoi? Tu sais, quel autre film le fait aussi bien d'une certaine façon? On dirait que j'ai peu de cas de figure. J'ai peu de films que je pourrais citer comme ça de ma manche, là.
Les vieux films de Yves Simoneau, mettons, là. C'est genre ben... pouvoir... Non, mais tu sais, pouvoir intime, des trucs comme ça, c'est... Moi, c'est les seuls thrillers rough québécois qui sont comme accessibles au public sans être trop intello. C'est tout ce qui me vient en tête, là, mais ça date des années 80, là.
Ben, tu sais, où il y aurait Requiem pour un beau sans cœur. Il y aurait peut-être du Robert Morin un peu plus mainstream encore là. C'est quand même très différent. Non, vraiment, je reviens encore un peu à Jérémy Saunier. Si, je pense pas qu'il y ait de cinéaste au Québec qui s'attaquait à ce créneau-là. Je pense que Patrice l'a pris à sauter dedans à pieds joints.
Ben, il y a pas du là, tu sais, comme surtout si tu fais la télé. Je sais pas si vous avez déjà écouté Cardinal. Là, je pense qu'on est rendu à trois saisons, quelque chose comme ça. J'ai vu une saison qui était comme très bien. bien, là, c'est genre une espèce de show policier avec... il y a certains petits moments de bravoure technique là, qu'on sent genre l'équipe qui se gâte. Là.
Ouais.
Mais ouais, c'est ça, c'est très bien fait, Cardinal. Là. C'est peut-être plus dans le côté enquête que, mettons, un thriller. Là, mais bon, j'ai pas vu jusqu'au déclin.
Mais... Non, mais c'est vrai, Pods, définitivement. D'ailleurs, j'ai vu Mafia Inc. Là, mais je pense qu'on a quand même du pain sur la planche pour l'épisode. Fait que
Juste quick.
Non, on n'en parle pas. Non, on va... quick. Non, faudrait que je rentre dedans. J'ai quand même...
Un soupir qui en dit long.
Non, mais tu sais, sous un bon jour, c'est un 3 étoiles. Là. Je sais pas quoi dire. Tu sais, c'est pour ça que je veux pas trop l'accrocher. Là. Disons, Marc-André Gondin est très bon. L'étoile du match, pour moi, dans ce film-là, c'est Serge Castellitto, là, lui qui joue le mafia, là, qui est librement inspiré de Vito Rizzuto, là, de la mafia montréalaise. Moi, je trouve que la saveur Montréal donne au film, mais il marche dans des grosses bottines, tu sais, post, évidemment, Goodfellas, Godfather. Puis là où Goodfellas... s'affranchissait, justement, sans faire de mauvais jeu de mots, de Godfather. C'était, tu sais, Godfather, c'est la musique de Nino Rota, c'est les teintes sépia, tu sais, c'est comme les gangsters chiaroscuro, là, tu sais, dans les, je sais pas, dans quasiment des manoirs et tout, tu sais, là où Goodfellas puis les films de Scorsese étaient très dans la rue, fait que je trouvais que, tu sais, c'est comme deux branches différentes du film de gangster. Mafia Inc. qui est comme un peu entre les deux sans nécessairement avoir sa personnalité propre, tu sais, puis c'est ça qui est un petit peu dommage. Par contre, la saveur Montréal rajoute, tu sais, moi, c'est tout le temps un peu le dessous réel, tu sais, c'est tiré d'un livre qui est évidemment basé sur beaucoup de des faits vécus. Fait, en ce sens, puis comment que la mafia montréalaise est comme un peu, puis tu sais, imbriquée avec les gardes motards, par exemple, puis avec la politique, puis avec la construction. Donc, moi, je trouve que les points bonis pour le film vont vraiment comme à l'intérêt ajouté qu'on en a de découvrir Montréal sous l'angle, finalement, mafieux, tu sais. Mais, mettons... Goodfellas, c'est la touche, mettons, musicale de Scorsese, elle est géniale, évidemment, Godfather aussi. Puis là, sérieux, c'est la pire affaire du film, là, c'est la musique, mon gars, là. C'est la musique de Milk and Bone, que j'ai rien contre Milk and Bone, j'aime bien leur musique, c'est pas un problème en soi. Puis c'est Milk and Bone mélangé avec tout le choix musical qu'ils ont mis, là. On dirait que c'est un jukebox sur random qui saute, là. Puis genre, ça fait aucun sens, là. Ça ne fait aucun sens, il y a aucune unité. Il y a même un cue musical qui rappelle à Godfather, là. Tu sais, t'as comme des trompettes, puis genre un petit air un peu mafieux, italien. T'es comme, non, man, non, va pas là, tu sais. C'est comme, tu le sais que tu marches dans des grosses bottines, vas-y pas. En tout cas, mais...
Mais pas dans le cinéma, là, on a souvent parlé, là, pis moi, à chaque fois, j'en reviens parce que j'ai... Je donne... Tu sais, je sais pas, il y a beaucoup de potentiel, puis je donne comme sa chance à chaque fois, là. Je me dis que c'est tellement un bon réal qu'il va finir par en avoir un qui frappe fort, là, mais c'est, finalement, c'est ses premiers films, probablement les meilleurs.
Ben, tu sais, moi, je trouve que c'est quand même son meilleur, si je peux jouer à la comparaison, c'est son meilleur depuis 10 et demi, quand même. Donc, tu sais, je dirais que c'est un retour en forme poli. Tu sais, je dirais ça.
Mais pas vrai, là, les gars, si à un moment donné vous avez le temps d'écouter Cardinal, là, tu sais, puis je suis le premier qui écoute pas trop de télé, puis que j'ai jamais le temps, là. Non, mais sincèrement, c'est des saisons de 6 épisodes, là, ça s'écoute bien. Puis, c'est un cast bilingue, là, avec Karine Vanasse, puis je me rappelle plus du nom de l'acteur. Là. Mais c'est comme super bon, ces trucs-là. Donc, peut-être que puis, comme on en parlait, il y a plus l'espace narratif, là, tu sais. Puis sûrement aussi une équipe conséquente, puis un budget conséquent. Puis tu sais, c'est quand même un des shows canadiens les plus importants des dernières années. Fait que peut-être que oui, effectivement, Mafia Inc., là, il est sorti. Il a pas nécessairement fait un grand retentissement. Puis tu sais, je pense pas que ce soit peut-être le grand succès qu'on aurait pu croire. Ceci dit, moi,
mais
j'ai
toujours pas vu.
C'est
pas un échec non plus.
Ouais. Mais moi, j'ai toujours pas vu, donc je vais me garder une petite réserve. Puis d'ailleurs, c'est ça, on commence à voter pour les Iris, là, les membres votants. Donc là, j'ai comme plein de liens là, qu'il faut que je me mette à jour sur certains films, dont Mafia Inc.
Hey, mais j'ai une question, Pascal, en fait, qui va être un peu comparative au film de Patrice, puis au salut de Pods. Les films de Pods, ce que je trouve décevant, comme beaucoup de gros films commerciaux québécois, c'est qu'ils sont comme pas distribuables à l'extérieur parce que c'est souvent des... sais, des versions québécoises, donc ça plaît au peuple québécois, mais pas nécessairement des meilleures versions que d'autres versions qui se retrouveraient dans d'autres pays, là. Mm-hmm. Genre Mafia Inc., ça m'étonnerait que c'est un truc qui va marcher à l'extérieur, dans des festivals à l'extérieur.
Mm-hmm.
Est-ce que le film Netflix, on va l'appeler de même, est-ce que le film Netflix a du potentiel de faire rayonner le Québec à l'extérieur?
Difficile à dire. Je pense qu'il y a assez... Il y a quand même une patte de mise en scène. C'est quand même pas un film juste comme qui joue bien les notes, mais un peu, encore une fois l'anglais, mais by the book, là, tu sais. Non, je pense qu'il y a quand même... Tu sais, il a fait des trucs quand même intéressants en court-métrage, hein, parce que la liberté, puis on dirait qu'il y a comme des relents de ça dans les mouvements de caméra, certains choix de cadrage. Je dis ça parce que je sais que ça compte beaucoup, tu sais, dans comment que les films s'exportent, tu sais, est-ce qu'on est un peu en présence d'un film entre gros guillemets d'auteur ou avec une griffe un petit peu. Je pense qu'il tire quand même un peu son épingle du jeu, donc en ce sens, peut-être je répondrais oui.
Puis faut pas oublier qu'il y a une immense différence entre une sortie en salle puis sur Netflix, tu sais, dans le sens que il y a plein de gens qui vont sûrement tomber là-dessus un peu par hasard, qui ont vu une espèce de film d'action similaire ou peu importe. Mm-hmm. Les algorithmes de Facebook vont placer une pub après que t'as écouté un show d'humour ou je sais pas quoi. Puis il y a des gens qui vont cliquer dessus. Puis tu sais, le saut de qualité. Puis j'ai pas vu le film, là, c'est vraiment juste une question de la plateforme, la manière qu'elle marche. Mm-hmm. Fait que les gens sont beaucoup plus ouverts et tolérants. Puis tu sais, l'exemple ultime, c'est le fameux Cloverfield Paradox. Préféré de skipper la salle parce qu'ils se sont dit en salle, les gens vont être déçus. Puis on va le mettre sur Netflix, genre on va faire un gros coup marketing. Puis là, comme de fait, il y a full de gens qui l'ont vu. Puis sont comme, ah, c'était pas si pire que ça.
Ouais.
Donc, en fait, c'était vraiment très mauvais. Puis je pense que toutes les critiques l'ont dit. Là, c'était juste que c'était le meilleur coup marketing parce que le mot a pas le temps de se répandre que les gens l'ont déjà vu, là. C'est comme un feu de broussailles, là. Ça arrive d'un coup, puis tout le monde l'a vu, puis sinon, après ça, ben, on s'en fout, là. Qui regarde Cloverfield Paradox 2 ans plus tard, là?
My God.
Ben, peut-être pas, mais t'sais, je veux dire, je suis sûr que le film de Patrice, il est meilleur que ça, puis qui va... Bref, vu la plateforme, qui va sûrement tomber un peu par hasard devant des gens qui vont lui donner une chance, d'autres non, puis moi, je suis convaincu au potentiel du film, là.
Mm-hmm. Ben, good. Hey, on a un gros programme aujourd'hui, un programme particulier parce qu'on a 36 millions de courts-métrages qu'on a vus. Explique-nous donc un peu ce qui s'est passé, là, Paul.
Ben oui, c'est le grand retour du gala Prends Secours, la grande fête du cinéma québécois orchestrée par le maître druide du court-métrage au Québec, Danny Lennon, qui revient après un an d'absence de ce gala, faute de je pense, de support adéquat. Et là, donc, c'est de retour dans le cadre des rendez-vous Québec Cinéma. C'est le mardi 3 mars à la Cinémathèque québécoise. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, en fait, ce n'est pas une soirée de projection. Hein. C'est vraiment juste une soirée où les prix vont être remis par plein de partenaires et commanditaires. C'est quand même super impressionnant ce que l'organisme et Danny réussissent à aller chercher.
Mm-hmm.
Ils pensent que ça va être environ plus de 250 000 $ en prix et services qui seront remis. Donc ça, c'est chapeau, hein, ça fait du bien, surtout à des jeunes cinéastes la plupart du temps, là, ceux qui font du court-métrage, qui en ont le plus de besoin en règle générale. Je pense qu'un pod, mettons, n'a pas besoin d'un 5000 $ en service à quelque part.
Non, ouais.
Donc ça, c'est super cool, et donc c'est 63 courts-métrages qui sont éligibles cette année. Et là, comme on a sauté une année exceptionnellement, il y a comme plusieurs films qui se chevauchent, tu sais, 2018, 2019, 2020. Il y a certains cinéastes qui ont deux films. Donc, une année un peu peut-être, une anomalie peut-être, cette année, mais reste que ça donne un peu le portrait de ce qui se passe en ce moment au Québec. Plusieurs films aussi inédits, là, tu sais, des films qui sont vraiment en tout début de carrière.
Ouais, c'est ça, qui vont faire leur première peut-être à regard, justement, plus tard, au mois de mars ou tout ça, là, parce qu'on va en parler, j'imagine, là, de certains, là, justement, on a vu de cette façon-ci certains films inédits, donc évidemment, là, on va en parler, vous pourrez pas les voir de ce pas, si vous allez à regard, vous les verrez peut-être là, puis éventuellement, peut-être que ces films-là vont être plus largement distribués, là, tu sais, mais oui, c'est sûr qu'on va parler de certaines primeurs aussi, tu sais, ça fait un peu partie des règles du jeu, là.
C'est quand même spécial de, tu sais, célébrer dans un gala des films que il y a comme pas de chance que t'aies vu parce qu'ils ont jamais été projetés, là. Tu peux être content pour le monde, t'es content pour les réalisateurs, les équipes, les comédiens, mais en même temps, c'est quand même particulier, là. À part le jury, est-ce qu'il y a des liens qui sont offerts au public?
Au public, non. Mais, tu sais, ensuite, je pense que le gala occupe une place unique un peu dans l'industrie, puis...
Ouais, c'est un coup d'envoi, là.
Ouais, c'est ça permet de créer du buzz, tu sais, puis à chaque année, comme le court-métrage, mettons, qui gagne la coupe du cours, là, c'est comme ça qu'on l'appelle. Tu sais, si tu regardes le palmarès année après année, c'est un gros court-métrage qui, ça lui donne une lancée. Parce que, tu sais, faut pas oublier qu'il y a tellement de professionnels, puis de programmateurs, puis de gens qui sont au courant du Gala Prends ce cours, qui vont prendre des notes, qui vont, tu sais... c'est juste nous en ce moment nous les trois, tu sais, c'est sûr que on a des liens aussi avec des festivals puis des amis puis des programmateurs puis des critiques, donc c'est sûr que les films qui vont gagner des prix ou qui seront mentionnés ici à notre podcast, ben c'est, ça donne un coup de main, puis Dieu sait quand on fait du court métrage qu'on a besoin de tout ce qu'on peut recevoir. Donc voilà, et pour un peu faire le tri de ces 63 films là, ça serait beaucoup trop long qu'on en parle tous. Donc, on a décidé de se faire un petit top 5, en fait. Donc, on va c'est ça, déclamer nos 5 films favoris à tour de rôle, là, à chaque position. Et puis, tu sais, il faut dire, là, avant qu'on commence un peu à parler de nos films, peut-être quelques remarques ou comment vous avez trouvé un peu la sélection, les gars, s'il y a des tendances que vous avez décelées, s'il y a des trucs qui vous marquent. Tu sais, je sais que toi, Rémi, aussi, ça fait quelques années que tu programmes à Fantasia, donc c'est le genre d'expérience avec laquelle tu es très familier. Tu es également jury pour les courts-métrages au Rendez-vous Québec Cinéma cette année.
Oui.
Donc, c'est le genre de mandat que tu fais souvent, là, écouter une soixantaine de courts-métrages comme ça. Puis il y en a plein que tu avais déjà vu, hey, j'imagine, ouais, que tu as revu tout ça.
C'est spécial parce que moi, tout se brouille un peu parce que je suis jury, comme tu dis, pour les rendez-vous où j'ai eu à regarder comme 35 films. Puis on en avait une soixantaine avec le gala, mais il y en a pas beaucoup qui s'entrecoupent parce que les rendez-vous, c'est souvent les fins de parcours. Puis comme tu disais, le gala, c'est le début du parcours. Puis je reviens, ben ça, c'est pas un spoiler, là, c'est pas quelque chose qu'il faut que je garde sous embargo, mais je reviens comme jury en plus pour le gala Québec Cinéma, vu que je représente un des festivals. Fait que tu sais, j'ai comme vu au-dessus de 100 courts-métrages là, dans les derniers 2 mois, là, je suis tellement mêlé.
Ouais,
là.
Ouais.
Puis l'autre affaire qui se brouille, c'est qu'il y a beaucoup de films dans la liste du gala que moi j'ai vu et que j'ai programmé pour Fantasia l'année dernière. Donc mon appréciation est tellement différente d'un cours que je vais avoir vu sur le champ présentement. Tu sais, les films matures avec toi, avec le temps, ben, le film va plus coller que d'autres. Mais des fois, t'as aussi le choc de voir quelque chose, mais peut-être qu'il va pas coller de la même façon qu'un autre film. Fait que, ouais, moi, mon top 5, là, c'est demain, il serait différent, là, je pense, mais c'est un fun exercice à faire quand même.
Ouais, toi, Pascal, quelques remarques, oui, vas-y.
Ah, ben, il y a beaucoup de couples en crise puis de jeunes marginaux, là, mais ça,
c'est. Ah, mais ça, c'est à chaque année, là. Du monde triste en vélo aussi, là. En vélo, il y en a deux.
Ben, c'est à chaque année, mais en même temps, c'est le fun aussi parce que, mine de rien, c'est une liste éminemment personnelle parce que c'est la liste de Danny, tu sais.
Ben oui.
Puis ça, j'apprécie ça dans n'importe quel festival, dans n'importe quel contexte, c'est de voir. Tu finis par connaître les gens pour savoir un peu qu'est-ce qui est branche. Fait que, tu sais, quand je vais à Regard ou quand je vais à Fantasia, ça, c'est le fun de voir un peu. Ah, ok, toi, t'as pris plus ces films-là, ou tu sais. Donc, ouais. Non, c'est intéressant. On a l'impression d'apprendre à connaître Danny à travers sa liste.
Ah oui, ben oui, puis c'est parfait. En fait, à toutes les fois qu'on fait l'éloge de l'exercice de faire une fucking liste, c'est ça qu'on dit tout le temps. C'est une bonne liste, c'est quand même... Il y a une dose de... C'est personnel, tu sais, d'une certaine façon. Je veux dire, il va y avoir certains suspects de convenance, tu sais, qu'on s'attend, mais il va y avoir aussi des films un peu champ gauche que tu dis, ah, ça, c'est clairement... C'est un peu collé à ton goût, tu sais, à toi, à moi, à Rémi, puis là, dans ce cas-ci, ben c'est à Danny. Mais tu sais, sur 63 films, c'est justement, là, t'en as des vertes et des pommures de toutes les couleurs, dans tous les styles, animation, documentaire, des films de 4 minutes, des films d'une demi-heure, en veux-tu, en v'là. Tu sais, c'est vraiment, là, on compare des pommes et des oranges, là, totalement. Mais c'est le fun de faire des top 5, fait qu'on a quand même fait des petits top 5.
Il y a aussi la catégorie film de Santiago Mengini, là.
Non, mais ben, déjà, on va les nommer, les trois cinéastes qui ont deux films. Il y a Santiago Mengini, qui a fait Red Wine et Regret. Ces films-là, moi, j'ai fait exprès de ne pas les mettre dans ma liste parce qu'il est trop proche de moi. C'est un ami, c'est mon collaborateur chez Nemesis Films. J'ai travaillé sur tous ses films. Donc, par souci de distanciation. Mais je me dis que sûrement que peut-être qu'un de vous va avoir aimé quelque chose qu'il a fait. Fait que je me dis, c'est bon, vous en jaserez. Puis j'en jaserai avec vous, évidemment, mais je l'ai quand même pas mis dans ma liste. Jean-François Leblanc, qui a deux films. Un de Regard l'année passée, puis un de Regard de cette année. Là, on parle de Prince de Valby Landgraves. On va y revenir. Et il y a aussi Pierre-Philippe Chevigny, qui a Recru et Hameçon. Donc, deux films aussi, quand même.
Ah, il y a aussi... Anthony Coveney, là, qui fuck les gars et qui part à la chasse.
Ah,
La quatrième doublée.
Ah, j'avais pas réalisé que c'était le même cinéaste. Oh là là. Ah, oh, ben cool. Ah bon, ben bravo. Merci de la correction. Fait que, on commence sur numéro 5.
Ouais. Ah ben moi, en fait, je vais juste préciser le fait que, un peu comme Rémi, moi je programme donc pour plein écran, et il y avait quelques films là-dedans de notre sélection de l'an dernier, il y a quelques semaines à peine, de janvier. C'est juste que ça fait tellement longtemps que je les ai programmés que dans ma tête, c'est l'an dernier. Mais, fait que là, ceux-là, je les ai volontairement écartés, parce que je me dis que je leur ai déjà donné beaucoup d'amour, puis il y a tellement de bons films, fait que tu sais, je voulais être sûr de pouvoir... en nommer d'autres, mais tu sais, des films comme Le Prince de Valby qui ont fait l'ouverture du festival plein écran, évidemment, c'est un film que j'admire et que j'aime beaucoup, sinon je l'aurais pas proposé comme film d'ouverture à plein écran.
Ouais, c'est ça. Ouais,
donc,
ouais.
Pascal, numéro 5.
Klebs de Halima Ouardiri.
What?
Ouais, Halima Ouardiri, c'est la cinéaste qui a fait Mokhtar, mais ça fait déjà, si on se rappelle bien, Mokhtar, moi je m'en rappelle parce que j'étais étudiant à Concordia à ce moment-là, c'était un peu le court-métrage, tu sais, à chaque année, il y a un peu le genre de court-métrage blockbuster, tu sais, qui va dans tous les festivals, puis qui gagne 36 000 prix, là.
Ben, lui de Myriam Joubert, d'ailleurs, je pense que c'était l'année d'après, ou quelque chose comme ça, Godwits and Revolution. Là.
Ouais, peut-être, ouais, c'est ça. Je dis ça parce que, pas qu'Halima Ouardiri avait rapport avec Concordia, ni même quand j'étais étudiant, mais disons, c'était un moment où je commençais à me mettre au diapason un peu du monde des courts-métrages, tu sais, en 2010, tu sais, un peu commencer à sentir, OK, tel ou tel cinéaste, et elle, c'est Mokhtar, c'était, me semble, c'était comme le court-métrage de cette année-là, là, carrément. Puis après ça, Silence Radio, c'est un Silence Radio qui est quand même plein de elle produit, elle est très active aussi, mais quand même, comme cinéaste de court-métrage, là, je me fie à IMDb, là, je sais pas si IMDb est 100% à jour.
Ouais, il doit sûrement manquer des infos, là.
Ben, peut-être, mais quand même, ce serait 9 ans après Mokhtar, son deuxième court-métrage seulement. Fait que c'est quand même un peu énigmatique parce que dans les deux cas, ce sont des films très, très, très maîtrisés. Klebs, c'est vraiment c'est un documentaire expérimental d'observation sur un refuge de chiens. Je pense que c'est au Maroc, mais je peux me tromper, mais je ne suis pas sûr que c'est au Maroc. Et il y a comme 750 chiens, puis c'est juste comme il y a un peu l'hypnotisme de voir les chiens d'un nombre indécent.
Là.
Ouais, c'est ça, un nombre indécent de chiens, tout se nourrir ou tout rentrer. Juste les allées et venues de cette masse-là canine est en soi hypnotique et vraiment prenante, là. Il y a comme quelque chose dans le rythme, le design sonore, puis tu sais, on est dans de l'observation, mais c'est très riche, tu sais, tu sens qu'elle est le regard qui est posé, où est-ce que la caméra est, le rythme du film, tu sais, c'est tout simple, mais c'est fichtrement maîtrisé, puis c'est ça, on dirait que ça a comme commencé, ça a fini, 18 minutes ont passé, j'ai été un peu désarçonné par le fait que ça faisait déjà 18 minutes que je regardais des chiens dans un refuge, c'était vraiment, moi j'ai vraiment trippé, je sais pas si vous partagez mon enthousiasme ou pas.
Ben moi, c'est en venant numéro 4, Pascal, fait que, tu sais, puis j'en profiterai en fait, tu sais, vu qu'on parlera pas en double de tout, là, c'est pas dans mon top, mais... tu sais, il y a aussi les documentaires Acadiana que j'ai pas mis dans mon top 5, mais qu'on a parlé en masse déjà au podcast, qui est peut-être un peu dans ce style-là où c'est un documentaire planant, tu te laisses porter par les images. Il y a toujours de l'analyse à faire en arrière de ces films-là, mais tu peux aussi choisir de le regarder de façon passive. Fait que c'est un peu au spectateur de choisir son level d'intellectualisation du film.
Ouais, absolument.
Puis même un autre petit doc, là, faire un clin d'œil, là, parce que ça brûle mon numéro 4, là. Mais il y a un port d'attache que j'ai vraiment beaucoup aimé, là, dans les documentaires qu'on a eu à voir, là.
Port d'attache, c'est de qui? C'est quel cinéaste, déjà?
Laurence Lévesque.
Merci.
Puis c'était, je pense, le plus long qui était dans les films proposés. C'est presque une demi-heure, puis ça aussi, c'est un film que Quand ça a fini, j'ai été comme un peu surpris que tout ce temps venait de s'écouler. Puis, tu sais, je pense que c'est bon signe, justement. J'ai comme été un peu pris par ces protagonistes-là. Là. Tu sais, c'est juste quoi? C'est un jeune d'une famille qui veut prendre le permis de pêche de son père, puis qui se bute à genre la bureaucratie pas possible, puis un peu les lobbies des pêcheurs, puis en tout cas, je sais pas trop. Là,
mais... C'est ça, c'est de son mentor, en fait, mais ces permis-là coûtaient rien à l'époque, mais maintenant, il y a un lobby qui a pris la place, puis que les permis coûtent une fortune. Puis je pense qu'il disait qu'il y avait comme juste une dizaine de pêcheurs qui avaient encore ce type de permis-là. Fait que, tu sais, lui, il veut juste le racheter à son mentor, puis continuer à pêcher, continuer à faire sa job, mais l'industrie de la pêche au Québec marche pas comme ça. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il y a un peu plus de... il est un petit peu plus talky là, comme documentaire, là. Il y a plus de dialogue, plus de... Mais ça reste que c'est une bulle dans laquelle tu rentres. C'est très, très hermétique là, comme milieu. Là. C'est dans la neige, dans le fret, puis t'as vraiment l'impression d'être pogné là avec eux. Mmh. Fait que moi j'avais vraiment beaucoup aimé, tu sais, je pense que c'est le trio de documentaires qui a beaucoup shiné pour moi là, dans la liste.
Moi pendant vraiment longtemps, Club était dans mon top 5, mais finalement d'autres films qui l'ont remplacé, mais une autre journée il serait dans mon top 5, tu sais, j'ai trouvé ça super cool. Ça fait très Bestiaire de Denis Côté, mais au soleil.
Ouais, peut-être, c'est vrai.
C'est un bon doublé à se faire. C'est vrai. Donc voilà, Rémi numéro 5.
J'ai mis Regret de Santiago, justement, on en parlait tantôt. Ça me donne l'occasion d'en parler, mais moi, je suis toujours vraiment fan de son travail. On avait programmé Red Wine à Fantasia l'année dernière. Puis Regret, en fait, pour la petite anecdote, il m'a dit aussi qu'il a utilisé justement les prix qu'il gagnait à Fantasia pour le pomper dans ce film-là. Fait que j'étais quand même curieux de voir. Curieux de voir ce qu'il a fait avec la bourse de Fantasia. Puis écoute, c'est encore vraiment badass comme film. Puis c'est super simple son cinéma, mais c'est parce que c'est tellement maîtrisé. Chaque plan est tellement bien réfléchi. Il y a des beaux build-up, des bonnes idées. Puis ça rentre toujours dans le format court. C'est juste l'espèce d'intro qui, en fait, pour le synopsis rapidement, c'est un gars qui est dans un hôtel qui se prépare pour les funérailles de son père, puis il y a un genre de démon dans l'hôtel qui pop devant lui, mais c'est un démon qu'il arrête de bouger quand tu le regardes, là, un peu comme le... Tu sais, ça s'entrecoupe un peu avec des concepts comme Lights Out, des films assez courts, mais avec des idées super punchées pour la créature.
Ouais. Tu sais, un peu les It Follows un peu de ce monde. Tu sais, comme de l'horreur un peu conceptuelle comme ça, là, mettons. Là.
C'est ça, puis c'est des concepts simples, mais qui sont faciles à botcher, je dirais. C'est comme facile de prendre des concepts comme ça à la légère. Mais Santiago est tellement talentueux dans sa mise en scène que ça marche vraiment bien. Puis, tu sais, même au début, j'étais... Bon, les images sont super belles, mais j'étais un peu sceptique parce que je voyais un peu que ça s'en allait vers ça. Là, le gars que ses démons se matérialisent autour de lui sous une forme physique. Fait que j'étais un peu sceptique, mais écoute, dès que l'horreur embarque, c'est tellement efficace. J'étais tout seul chez nous à regarder ça, puis j'ai vraiment filé quelque chose là, quand le démon il se rapproche, puis t'es dans la vision du gars, la façon qu'il travaille sur les points de vue du personnage. T'es vraiment dans ses bottines, puis c'est ça, là, tu sens la menace qui se rapproche, le poids aussi qui englobe le personnage. C'est vraiment bon. La cinématographie extérieure aussi me rappelle vraiment un Denis Villeneuve, là, l'intro de,
de son film Ennemi.
La façon qu'il filme les buildings, qui crée cette espèce d'atmosphère-là où tout est... Tu sais, c'est du numérique ultra sharp, là, c'est des belles, belles images, mais en même temps, c'est un film d'horreur, puis c'est assumé comme tel. Fait que, encore un méchant bon coup de la part de Santiago.
Yeah! Bravo. Mon numéro 5,
bravo.
Sexe de rupture d'Alex Sajane Dubé.
On va en reparler. On va en reparler plus tard aussi.
Ça fait déjà plusieurs fois que je l'ai vu, ce film-là, et ça fait plusieurs films donc d'Alex Sajane Dubé que j'adore. C'est une artiste, donc on connaît surtout pour être comédienne, mais elle écrit, là, elle réalise, et je la trouve donc intelligente, cette jeune artiste cinéaste multidisciplinaire. Là, et Sexe de rupture, t'sais, on peut pas parler du film sans parler de sa forme, parce que c'est une espèce de... Bon, c'est basé sur une nouvelle érotique là, d'un recueil québécois. Puis en gros, c'est l'histoire d'une rupture. Là, c'est très très court, là, c'est un 10 minutes. Mais il y a comme tout un concept où la protagoniste qui est jouée par Victoria Diamond, la femme donc qui se fait tromper, qui comme regarde l'écran, mais elle est comme dans une espèce de vidéo... ASMR, là, tu sais, les espèces de vidéos où les gens chuchotent sur YouTube, puis ils font des... ils jouent avec des objets, puis des textures. C'est comme un sous-genre très spécifique, là. Puis, tu sais, pour ceux qui connaissent pas, ça peut sembler absurde, mais en tout cas, c'est quelque chose pour apaiser les gens. Qui, d'ailleurs, est toujours très près aussi de l'érotisme, tu sais, d'entendre genre des... des petits sons comme ça, venir jouer avec les sens. Mm-hmm. Et il y a aussi beaucoup de split screen dans le film. L'utilisation des couleurs est super importante. Il y a la répétition, tout ça. Donc, c'est vraiment le genre de film. Ce qui est le fun, c'est que je vous le décris, puis je suis sûr que tout le monde est comme, ben, je vais attendre de le voir parce que là, je peux pas vraiment comprendre ce que c'est. T'sais.
Puis, ouais, c'est puis juste là, ça. C'est...
Puis juste ça, je trouve ça génial parce que c'est, tu sais, la nouvelle, elle existe, je l'ai lue. C'est une bonne nouvelle, mais là, en fait, une adaptation complètement autre. Et puis, pour ceux qui sauraient pas c'est qui, Alexandre Dubé, elle avait fait également Scopic, qui a circulé beaucoup il y a 2 ans. L'espèce de film de drone, que c'est comme une anthologie d'histoire de sexe. Filmé de haut là, avec
c'est
des
drones. C'est super. Moi, je suis vraiment fan de son travail. Pour de vrai, en tant que réalisatrice, là, pour moi, c'est une artiste totale, c'est une artiste complète. Ouais, là, ouais, je veux dire, ouais. J'ai vraiment hâte de voir le prochain aussi, d'une certaine façon. Il y a comme quelque chose de. On le sait pas, les idées viennent d'où, mais il y a comme un feu, il y a comme une pulsion créatrice. Ça paraît dans ses films qu'il y a une liberté. Peut-être justement parce qu'elle a peut-être pas la pression de réussir à tout prix comme réalisatrice. T'sais. C'est déjà une comédienne qui roule beaucoup, qui est très talentueuse. Donc. Mais en même temps, peut-être que de ne pas avoir cette pression-là, ça fait qu'elle fait des films affranchis, puis qu'elle YOLO, puis qu'elle fait ce qu'elle veut, mais ultimement, c'est ça qu'on aime, c'est ça qui marche, moi, je trouve. Là.
Et elle utilise les outils d'une bonne façon, tu sais, c'est pas juste des gimmicks de comme, ouais, je vais faire un film avec des drones, parce qu'on en a tellement vu des films avec des drones. Donc non, c'est ça, vraiment une cinéaste incroyable, je trouve, au Québec, donc ça, j'ai adoré ça. Vraiment. Pascal, numéro 4.
Ben, c'était Sexe de rupture, en fait. Fait
que... non, voilà.
Mais je vais en profiter pour... Ouais, vas-y.
OK, mais j'allais dire, moi, en fait, il va revenir, mais là, on calme-tu quand ça revient dans nos tops?
Non, faut pas.
C'est quoi les règles? Je comprends pas
c'est peut-être mieux, c'est peut-être mieux de garder un peu le suspense, là, pour...
OK, c'est bon.
Donc, voilà. C'est parce que moi, il arrivait, là, je savais que j'en parlais juste après toi, c'est pour ça que j'ai vendu la mèche, mais sinon, c'est ça, je vais essayer de garder le suspense pour les prochains. Mais je vais en profiter pour faire une petite mention au passage, parce qu'on s'est dit justement quand les films, on se dédoublait, on pouvait, mais là, à un moment donné, le temps va filer, fait qu'on va arrêter de faire ça.
On
mais
détermine
bon,
les règles en cours
parce
de
que
route.
Je veux quand même dire... Il y a une autre comédienne qui a fait un court-métrage que j'ai trouvé franchement réussi. C'est la comédienne, elle s'appelle Larissa Corriveau. Elle avait joué notamment dans le film de Denis Côté, Le répertoire des villes disparues. Elle a fait un court-métrage qui va justement avoir sa première à regard, ça s'appelle À travers les murs. On est encore aussi un peu, puis ça répond aussi peut-être un peu au cinéma de Santiago parce que c'est du cinéma de genre, mais du cinéma de genre très atmosphérique. Écoute, j'aurais même de la misère à faire un synopsis parce que moi aussi, là, on dirait que ça s'est embrouillé. Là, j'ai vu vraiment beaucoup tous les films un peu sur dans un tapon là, dans les dernières semaines. Mais celui-là, je me rappelle vraiment des sensations précises. Je me rappelle des zooms, je me rappelle des mouvements de caméra qui passent d'une pièce à l'autre. Je me rappelle de l'oppression. Puis je trouve, puis encore une fois, puis je parle de ça parce que tu sais. Ça prend un cinéaste pour réussir ça. Parce que c'est pas juste comme, par exemple, on pourrait penser à tort probablement que quelqu'un qui, justement, qui est peut-être plus connu ou reconnu comme comédien, comédienne, va peut-être faire un film qui va davantage mettre l'accent sur ça, tu sais. Mais là, non, en fait. Puis comme Alex Ajan, c'est pas des films de comédiens, c'est ça qui me fait surprendre. C'est ça qui
À travers les murs, c'est quand même donc un couple de parents qui essayent d'élever leur petit garçon qui est atteint. Donc c'est quand même aussi le film repose sur des bonnes performances d'acteurs là. C'est moins conceptuel que d'autres films là.
Mais c'est quand
mais
même
il y a une ambition au niveau
c'est
du son puis de l'image là, comme, c'est pas juste un film de performance, c'est qu'il y a, il y a comme une scène de panique là, qui est comme assourdissante puis c'est du travail vraiment du travail technique là. C'est plus que de la direction d'acteur, ben, même si les acteurs sont très bien dirigés là, je dis pas ça pour
c'est pour ça que je voulais le mentionner. Moi, c'était peut-être ma mention, ma première mention. Là, fait que genre, peut-être mon numéro 6 pour ce que ça vaut. Là. Fait que je le mets sur votre radar à ceux qui écoutent. Puis si jamais vous allez à regard, vous tomberez sur certains de ces films. Fait qu'À travers les murs de Larissa Corriveau. Puis c'est Sexe et rupture, mon numéro 4. Rémi, numéro 4.
Bon, je l'ai dit tantôt.
C'était Klebs, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Puis j'ai brûlé un peu mon Joker en parlant de Acadiana puis de Port d'attache, fait que numéro 4, Paul.
Oui, on enchaîne numéro 4, donc un des gros films de l'année quand même, c'est pas une surprise. Il va sûrement jouer partout à travers le monde. C'est déjà commencé depuis Sundance. Je finirai en prison. D'Alexandre Dusty. Alexandre Dusty, qui est évidemment donc distributeur pour Travelling depuis plus d'une dizaine d'années, mais également poète et quelqu'un de la région qui adore la région, qui adore la langue québécoise, qui ne la
rime pas.
Et
chanteur dans un groupe hardcore aussi. Parce que je pense que pour comprendre Alex Dusty, il faut comprendre tout ça. Parce que c'est un peu tout ça dans un blender, cinéma, tu sais.
Ça explique beaucoup.
C'est ça. Bref, mais excuse-moi.
C'est ça. Puis après, L'Excellent Mutant, il y a quelques années, tu sais, des fois, on pense, OK, quelqu'un met tout dans son premier gros film, puis peut-être que c'est une anomalie, mais je trouve que pas du tout. Il est vraiment là pour rester. Puis je pense que la prochaine étape, c'est un long métrage. Puis pour moi, il y a quelque chose dans son cinéma qui rejoint un peu du Denis Arcand de la première époque, de la belle époque, tu sais. Quelque chose de vraiment qui comprend le Québec, puis qui est fier, puis qui. Il nous propose des personnages vraiment plein de couleurs, puis un scénario solide aussi. Puis ça, bon, en gros, c'est une femme, on est dans un petit village de bout du monde, une femme un peu qui divorcée, là, puis qui veut un peu, elle a la misère un peu à vivre sa vie.
L'insatisfaction profonde, ouais. Là, c'est ça. Là.
Et à un moment où elle est sur la route avec un gros truck, puis qu'elle est comme un peu en train de chanter, crier, pleurer en même temps, elle va, tu sais, puis là, c'est les routes de campagne, de fond de région québécoise, en colline, tu sais, très peu... sécuritaire par moment, il neige beaucoup, et puis elle va avoir un accident avec, avec un jeune bolide stationné. Puis on se rend compte que c'était donc un jeune qui était en train de faire de la drogue avec son ami. Là, j'en dis pas plus parce que c'est déjà beaucoup d'éléments. Mais ce film-là, c'est ça, c'est que autant le scénario solide, autant que les personnages sont beaux, et ça fait du bien d'entendre comme les répliques, les dialogues, tu sais, de toutes les plumes qu'il y a au Québec, là, celle de Dusty, c'est une des plus précieuses. Puis c'est pas juste au niveau de... Tu sais, c'est qu'il y a certains films, des fois, qui essaient de faire comme d'autres types de cinéma ou qui essaient d'avoir un français international ou quelque chose comme ça. Il y a des trouvailles dans les mots utilisés, puis des espèces de néologismes, puis des expressions, tu sais, qui sont le fun, puis qui glissent bien sa bouche, puis tu sais, qui peuvent juste venir d'un mélange du Québec profond, puis de ce que Dusty connaît, tu sais, puis... puis en plus, il y a un piège quand t'es un programmateur de film ou un critique ou un prof, tu sais, des fois, ça donne des films super arides, parce que paradoxalement, la personne a tellement de référents que ça peut comme un peu venir causer un bouchon. Puis lui, pas du tout. Autant en tant que cinéaste que comme programmateur, je trouve que Dusty, c'est un artiste et un homme exceptionnel. Puis son apport à l'industrie est incroyable. Puis ce film-là, c'est un bijou. Pascal, numéro 3.
Numéro 3, c'est une primeur. Puis c'est Jean-François Leblanc, Nouvelle Offrande. On parle de Landgraves. Je sais pas si je suis tout seul à être aussi enthousiaste, mais en tout cas, moi, déjà, je suis vendu, là, c'est un peu un film black metal. Tu sais, c'est un journaliste qui s'en va voir faire une entrevue pour un genre de magazine style Urbania, là, bon, bref, qui s'en va retrouver un genre de duo metal qui sort de prison après. Puis ça, c'est révélé en plus d'oignons, là, comme au compte-gouttes, là, qu'est-ce qui s'est passé, puis la raison pourquoi ils sont allés en prison, puis le contexte et tout et tout. Bon, bref. Et puis là, justement, ils s'en font un peu une entrevue du retour, d'une certaine façon, de ce duo-là. Là. Mais tu sais, c'est comme, rapidement, je pense que il se frotte un peu à deux sociopathes / psychopathes. Ou pas, ou juste des gens qui veulent un peu te troller puis te faire foutre la chienne. En tout cas, Pierre-Luc Briand est vraiment un...
Briand?
Oui, il est vraiment incroyable. je pense que c'est... On le sait qu'il est bon, mais ça, c'est comme
puis sur mesure. Puis c'est que le film lui permet aussi, tu sais, c'est ça, la caméra reste longtemps, là. Puis il mange le journaliste, là, comme une proie un petit mouton qui a peur, là. Tu sais, c'est vraiment... Il y a quelque chose dans la mise en scène qui est incroyable dans ce film-là.
Ouais, le casting nous amène loin, déjà, là, puis vraiment particulièrement par Pierre-Luc Briand. C'est ça, un film froid, un film d'hiver, un film métal, un film solitaire, mais en même temps une belle maîtrise aussi, tu sais, des cadres placés, plaqués, quelles infos révéler à quel moment pour comme méticuleusement faire progresser, tu sais, l'ambiance, la tension, la... moi j'ai, ouais, fait que Landgraves, je trouve que c'est son meilleur film. J'avais beaucoup aimé Le Prince de Valbé, tu sais, Jean-François Leblanc, je le suis, puis je trouve qu'il s'améliore de film en film, carrément, fait que je veux dire,
c'est vraiment une autre vibe que le Prince de Valbé.
Oui,
là,
c'est une autre vibe.
Ailleurs, c'est un film d'ambiance. Tu sais, Le Prince de Valbé, c'est très réaliste, ça rentre fort, c'est c'est monté serré, là, on va
ouais,
dire.
C'est
là.
Ça,
c'est vraiment un film d'ambiance. Là,
exact.
Moi, il m'a gagné au travers, justement. Au début, je trouvais ça un peu slow pace, mais finalement, ça finit par payer autant grâce à l'ambiance qu'aux performances des comédiens. Là. C'est super bon, c'est vraiment, vraiment excellent.
Fait que ce serait mon numéro 3. Et toi, Rémi, qu'en dis-tu?
Ben, numéro 3, on en a déjà parlé sur le podcast, mais Physique de la tristesse.
Oh,
donc, ça se place là. Ça, je sens qu'il va arriver dans d'autres tops aussi. Voilà, je sais pas si on repasse au travers, là, mais c'est un... my God, je sais même pas comment résumer, en fait, Physique de la tristesse. Là. C'est un film d'animation de l'ONF de Théodore Ouchev qui dure quasiment une demi-heure, qui est fait dans une technique de peinture. J'ai lu que c'était comme... La première fois qu'il faisait un film avec cette technique-là,
ouais, c'est l'encaustique, c'est un mélange de cire et de pigments, en fait. Fait que c'est bien particulier. Il utilisait ça souvent sur des gravures, des vieilles plaques. Tu sais, c'est comme une technique de gravure, de peinture, là, plus que de gravure. Bon, bref, là, ça paraît qu'on n'est pas trop doux d'animation.
Non, c'est ça.
Mais bon, bref.
Mais tu sais, c'est particulier le feeling parce qu'on dirait que c'est entre la technique du sable sur plaque de verre puis la technique de la peinture. Un film d'animation traditionnel en peinture. Mm-hmm. Fait que c'est un film qui joue avec la mémoire aussi. Fait que tu peux, il y a comme un mood qui est créé dans le film qui se raconte pas vraiment. Ben, c'est ça, je suis allé lire, là, ça semble être basé sur le roman d'un écrivain qui s'appelle Georgi Gospodinov. Mm-hmm. Je l'ai pas du tout en dessous des yeux présentement. Mais c'est parce que ce que j'ai compris, c'est que c'était tellement inspiré librement de ce roman-là que ça ressemble plus vraiment à l'histoire originale parce que c'est un peu l'histoire de l'animateur mêlée avec l'histoire de son père mêlée avec le roman. Donc, comme une espèce de... Ouais, c'est ça. Là,
et sa propre histoire aussi. Il y a une grosse part d'autobiographie, mais c'est dur à résumer parce que c'est un film qui est comme en bulle de temps puis de mémoire, puis on est dans le passé, puis dans le présent, puis dans le futur, puis la voix off. Puis,
c'est des fragments de mémoire, en fait. Tu rentres dans la tête de quelqu'un puis tu te promènes dans ses pensées, puis dans ses souvenirs. C'est vraiment impressionnant là, comme travail. Là.
Ça touche tellement des grands thèmes aussi, tu sais,
forcément
tout le monde peut y trouver quelque chose auquel se rattacher, même si c'est pas nécessairement notre histoire en particulier. Là.
C'est ça. Puis si tu serais pas sur l'histoire, ben écoute, la technique est tellement impressionnante qu'il reste au moins ça. Là. Par contre, moi je vous en ai parlé là, après l'avoir vu, mais vous me l'aviez fortement suggéré. Mais j'ai vu la version française, puis j'étais comme un peu déçu de ça. J'ai l'impression peut-être qu'il montrait peut-être un spot dans mon top si j'entendais la version anglaise. La version française, c'est Xavier Dolan qui fait la voix, puis
ouais.
C'est comme un français international soutenu qui est pas très naturel, qui est... C'est vraiment comme s'il était dans une soirée de poésie là, avec un lutrin en avant. Là. J'avais vraiment l'impression que j'allais écouter Xavier Dolan dans une soirée de poésie dans le Mylem. Parce que c'est du français international, mais qui utilise des fois des expressions un peu keb. C'est plus comme un langage soutenu, puis je trouve que ça brise le naturel, puis ça brise l'éclatement du film.
Mm-hmm.
Fait que je serais curieux de voir une autre version de ça, parce que... Ouais,
ben moi j'ai vu les deux pour les comparer en fait parce que je suis un vraiment gros fan du film, on va y revenir, c'est ça, moi, pour moi la version anglaise est nettement supérieure. C'est Rossif Sutherland qui fait la voix, mais en même temps il y a une partie de moi là, qui me disait tout le temps en regardant ce film là, ça aurait quasiment dû être Théodore Ouchev qui fait la voix lui-même. Il y a quelque chose de sa persona, Théodore Ouchev, si vous vous intéressez un tant soit peu à l'animation, vous l'avez peut-être déjà vu, entendu, en entrevue, à droite, à gauche. T'sais, je veux dire, le gars est aux Oscars, là, il y a une couple d'années. C'est vraiment un maître. Puis il y a quelque chose de très bulgare, le film. On est entre la Bulgarie, entre Montréal. Il y a quelque chose de... Puis je sais pas, moi, je l'aurais peut-être aimé, moi aussi, la voix avec le vécu.
Ouais.
C'est ce vécu-là.
Puis l'accent, s'il vous plaît. Là, L'accent que Xavier Dolan, c'est tellement sceptisé, là, ça donne tellement de distance avec
mais
film.
Bon,
pis...
mais déjà, comme je te dis, la version en anglais, Rusty Sutherland, fait vraiment une déjà, il n'y a pas cette espèce, le côté stiff dont tu parles, c'est quand même très bien cassé, là, je trouve que la mm-hmm. ouais. Donc, c'est... Mais, en tout cas, on va y revenir. Mais c'est magnifique.
Parfait, mon numéro 3. Un film que j'ai vu il y a longtemps, que j'ai pas eu le temps de réécouter dans les derniers jours, mais que vraiment ça m'a marqué, puis pour moi c'est un des plus beaux films de l'année, Celle qui porte la pluie.
Ah ouais.
Marianne Métivier. Et c'est difficile à parler de ce film-là, puis il y en a d'autres dans la liste évidemment, parce que bon, je l'ai vu au FNC, puis il y avait un Q&A avec les réalisateurs, tout ça. Et Marianne disait justement que c'est vraiment un film en réaction à la mort de son père. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que ça rajoute une coche d'information. Tu sais, puis au pire, on aurait pu pas le savoir aussi. T'sais, moi, j'étais au Q&A, sinon je l'aurais pas su, puis là je vous le partage, mais. Mais tu sais, c'est vraiment un film aussi, ça, c'est empreint de cette mélancolie, tu sais, qui ça traverse le film. Puis un petit côté, c'est ce réalisme magique, là, qui me rappelle un peu, tu sais, cinéma de Wiracetta Cool, peut-être, ou les nouvelles de Haruki Murakami, tu sais, une petite ambiance, là, si vous savez de quoi je parle, parce qu'en plus, le film, bon, se passe en partie dans une jungle, là. Ouais, c'est jeune Amaryllis Tremblay qui interprète la jeune fille principale. Puis j'ai pas le goût de vous dire trop ce qui se passe parce qu'il y a comme un peu des surprises qui sont vraiment le fun à vivre lorsqu'on découvre le film. Mais c'est ça, il y a quelque chose de vraiment serein dans ce film-là, mm-hmm. de vraiment doux puis de délicat qui est comme dur à saisir puis à maîtriser. Puis je trouve que ce film-là le fait extrêmement bien, de manière extrêmement sensible. C'est un genre de film qui fait du bien. Il y a peut-être aussi un petit côté exotique. Là, c'est le fun des fois des films québécois qui voyagent, puis qui c'est pas seulement juste un. Puis c'est bon, depuis tantôt on parle beaucoup de films, comme genre Physique de la tristesse. Il y a beaucoup de films ici au Québec ouverts vers le monde. Là. Mais il y a quelque chose dans ce film-là qui est franchement très très bien. Puis ça fait du sens que ça devienne une place aussi personnelle parce que c'est ça, il y a quelque chose de solennel dans le film qu'on ressent, peu importe qu'on ait de l'info ou non.
Mm-hmm.
Donc, mon numéro 3.
Ouais.
Pascal, ton numéro 2.
Hey, je sais que je suis un peu tout seul. Qu'on en a parlé un peu hors d'onde, là, mais je vais le défendre de tout mon cœur. C'est le nouveau film de Emily Mannering, Jarvik, numéro 2. Fait que Emily Mannering, elle a fait le film. On l'a connu ou découvert beaucoup avec le court-métrage Star en 2015. Puis depuis, elle a beaucoup réalisé des fois des scénarios de d'autres. Mais c'est bien correct, tu sais. Elle a réalisé là, tu sais, les web-séries Les Brutes notamment. Puis on l'avait vu à la co-réalisation de Mahalia Melts in the Rain. Et puis là, justement, Jarvik, son nouveau film qu'elle a pas scénarisé, mais quand même, elle y amène toute sa poésie de son regard dans des situations qui sont plutôt banales. Mais je dis pas ça négativement. Je trouve que elle a une façon de filmer le banal qui... Puis dans Star aussi, c'est ça qui m'avait un peu fasciné. Mais pour moi, j'ai envie que c'est encore peut-être même supérieur. Je sais pas, c'est encore peut-être plus maîtrisé. Comment elle filme ce groupuscule-là? Bon, en l'occurrence, c'est une famille. C'est Monia Chokri, j'ai une mère de famille. La jeune comédienne, elle s'appelle Leia Scott. Et il y a un jeune frère là, qui vit avec un problème cardiaque. Donc, tu sais, il peut pas s'exciter outre mesure et tout ça. Mais là, on est avec un personnage qui est un peu à l'aube de l'adolescence, qui aimerait ça, tu sais. Peut-être qu'elle aurait plus envie d'aller chiller avec ses amis que de passer du temps un peu en famille, à était son frère qui est un peu malade et tout, tu sais. Mais on est donc dans une observation d'un groupuscule, d'une famille, mais il y a comme une, je sais pas, une tendresse, une façon. Les scènes durent juste assez longtemps, tout le temps. Il y a juste assez de part d'impro puis d'écriture pour que le film soit surprenant, mais en même temps, elle, quelque part, qu'on soit pas juste dans comme un peu. Il n'y a pas trop de laisser-aller non plus. Je sais pas, je trouve qu'on est vraiment sur le sweet spot là, entre ça. Puis moi, c'est une déformation professionnelle, mais j'ai tendance à aimer ça, moi, les films qui qui casse le bon élève scénaristique, tu sais, les scénarios qu'on sait trop, les actes sont où, puis la progression va comment, tu sais, plus ça va, puis plus je trouve ça un peu barbant, mais tu sais...
Il y a quelque chose de très littéraire dans ce film-là, puis je dis ça vraiment sans aucune connotation négative, là, tu sais, comme un peu des courts chapitres, tu sais, puis on a l'impression de vraiment saisir les personnages à travers ça, des instants choisis un peu, là, des longues ellipses.
C'est ça, absolument. Donc, c'est ce que je dirais là, de Jarvik, mais j'ai vraiment un gros coup de cœur pour moi. Puis, c'est un coup de cœur que j'ai... Tu sais, il y a d'autres films, par exemple, tu sais, Landgraves, où je parlais, ou, tu sais, Sexe de Russure, Klebs, tout ça, mais c'est les autres films dont on parlait, je pouvais peut-être un peu plus prendre en pièces détachées plusieurs éléments puis en parler. Jarvik, je trouve que c'est un beau tout. C'est pour ça que je m'explique drôlement le coup de cœur que j'ai eu, mais c'est un coup de cœur pour la totalité, pour une vision, un regard, un beau moment de cinéma, tout de tendresse et de beauté. Fait que, ouais, voilà. Jarvik.
Non, mais je l'aime beaucoup, le film. Puis, tu sais, Emily Mannering, une de ses grandes forces, qui n'est pas toujours évidente, là, puis qu'on a l'impression, des fois, sous-estimer cet aspect du cinéma, mais c'est vraiment le casting. Puis tu sais, pour Star aussi, c'était un truc de fou, là, elle avait répété des semaines et des semaines avec une gang de jeunes non professionnels, tu sais. Puis là, vraiment, bon, évidemment, il y a Monoyer Chokri qui vient un peu ancrer tout ça, là. Un peu, ça fait un peu penser à Willem Dafoe, là, dans Project, là, qui vient rassurer, là, tu sais, comme, bon, il y a au moins lui au cas où, là. Mais c'est ça, des jeunes super atypiques, tu sais, des personnages qu'on voit pas nécessairement souvent, tu sais, le jeune garçon avec le problème cardiaque, puis sa machine qui traîne, puis il y a aussi comme les cheveux bleus, puis il y a comme des détails comme ça qui sont le fun, tu sais, puis la jeune elle est rouquine, elle a aussi des très beaux yeux bleus, c'est très bien filmé, tu sais. Mais c'est pas une beauté, mettons, plastique, là, c'est
absolument pas, c'est ça. Mais elle est superbe, en voulant, quand je disais ça, je parlais pas de son physique nécessairement, ou en voulant dire, mais tu sais, elle est vraiment, c'est toute, là, tu sais, c'est le petit côté farouche, unique, c'est ça, mais peut-être par les cheveux roux, mais peut-être, tu sais, le regard, l'intensité, elle est très très bonne, tu sais, c'est vraiment le package au complet, là, quand je dis c'est vraiment super.
Puis ça découle de plusieurs choses, puis la direction artistique et tout ça, mais entre autres, c'est ça, du casting, puis de vraiment prendre le temps de faire des recherches, parce que, tu sais, ça avait été Émilie Bière, mettons, tu sais, ben c'est comme, tu sais, il y a quelque chose de plus, des fois, à aller vraiment prendre le temps d'aller chercher, comme, des gens qu'on voit pas souvent, là. Donc,
oui, absolument.
Bravo, Émilie. Rémi, ton numéro 2?
Moi, il y a plein de commentaires que tu dis sur Jarvik qui peuvent s'appliquer à ce film-là, mais Goodbye, Go Lovin', là. Ça m'a vraiment fait planer ailleurs. Je connais rien du film, en fait. Je sais pas dans quel contexte il a été fait, mais ça a été comme tourné dans une espèce de banlieue en Russie, là, qui est juste des blocs de béton au milieu de nulle part. C'est juste le contexte de ce film-là. C'est plus un film qui, visuellement, m'a striké, parce que le film est construit comme une réflexion, quasiment un poème, un slam. Puis c'est un jeune, son père vient de décéder, là. C'est une thématique qui a l'air de revenir, là. Je m'en rends compte en le disant, là. Mais son père vient de décéder, puis il veut juste trouver qu'est-ce qu'il va faire avec sa vie. Est-ce qu'il reste dans cette espèce de quartier-là où il va quitter? Donc, tu sais, le réalisateur s'appelle Mathieu Grimard. Je savais pas trop ce qu'il a fait d'autre, mais je comprends que c'est pas un nom russe, là, donc c'est probablement pas une histoire personnelle, mais j'ai vraiment pas compris où j'étais, puis ça m'a fait décoller, là, vraiment ailleurs. Mais c'est un film qui est techniquement vraiment impressionnant. Si j'avais vu ça en festival, je me serais jamais douté que c'est un Québécois qui a réalisé ça. Ça a vraiment même une sensibilité d'ailleurs. C'est vraiment dur à décrire comme film. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
C'est très urbain, mais en même temps, t'sais, avec la voix off, un peu, t'sais, on est dans de la poésie, mais t'sais, on est comme un peu dans une esthétique vidéoclip. Mais je dis pas ça, c'est zéro péjoratif quand je dis ça. C'est que Mathieu Grimard, il a travaillé beaucoup avec Roméo et fils. Fait que, t'sais, il a fait quand même pas mal, t'sais, de vidéoclips et de pubs. Mais là, c'est comme dans une œuvre donc artistique, t'sais, on la sent, cette sensibilité-là. Puis on le sent que ça vient d'une place intègre, parce que c'est ça, tu sais, il fait pas des belles images comme pour être tendancieux, puis parce que c'est ça qui pogne. J'ai vraiment l'impression qu'il baigne là-dedans, puis c'est quelque chose qu'il aime vraiment façonner, tu sais, son récit de cette façon-là, puis de faire quelque chose.
Si chaque image est à bonne place,
C'est très visuel, un peu vidéoclip-esque, mais moi, quand je dis ça, c'est jamais négatif. By the way, là, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent...
Ça peut être négatif dans certains termes, là, mais,
moi, je l'utilise mais pour jamais
ce film-là, ça sert le film, là.
Mais OK,
puis
cool.
Puis nous, à plein écran, il y a quelques années, on avait présenté un de ses cours qui durait comme 4 minutes, là, qui s'appelle « Fleur Between Us Two ». Rupture d'un couple, puis il y avait vraiment un peu de... plein de trucs qu'on retrouve dans son cinéma, qui est beaucoup influencé aussi. C'est comme cinéaste de la génération Instagram, là, avec des fois, tu sais, des mots en superposition, des petites pensées. Un plan que c'est comme, finalement, ça pourrait être genre une photo presque, tu sais. Mais encore une fois, moi, je veux pas dire ça de manière négative, là. C'est un film vraiment planant, urbain. Puis ça pourrait être... des fois, t'as l'impression de regarder une belle pub de Gap, là, tu sais. Puis le gars principal, il est super beau. Un grand blond. C'est vraiment cool, ce film-là.
C'est un super casting, mais c'est en fait, tout est tellement bon. C'est pour ça que ça me rappelait ce que tu disais avec Jarvik, là, c'est que c'est un bon tout. J'ai de la misère à décortiquer ce film-là. Il faudrait que je le revoie pour analyser aussi qu'est-ce qu'il dit, parce qu'au final, les paroles deviennent quasiment comme de la musique dans le film. Puis c'est juste, moi, il m'a accroché dans son univers dès les premières images. Voilà, moi, c'est mon numéro 2.
Cool. Moi, mon numéro 2, c'est un film qu'on a déjà parlé, c'est Landgraves ou Landgrave de Jean-François Leblanc, parce qu'apparemment, c'est un terme français, mais bon, ensuite, on pourra en rediscuter. Et vraiment une ambiance incroyable. Jean-François Leblanc qui en finit pas de me surprendre, c'est ça, j'avais adoré Le Prince de Valbé. Une autre réussite. Puis une production Couronne Nord aussi, hein, Couronne Nord, tu sais, qui font leur film, puis le film de Patrice, mais qui font aussi d'autres projets. Donc vraiment excellente production qui risque sans aucun doute de tourner. Un petit props aussi, genre au logo du titre qui s'anime pendant vraiment longtemps au début du film. Puis tu sais, ça c'est un détail, mais moi ça me touche dans le sens que j'aime ça quand on sent vraiment qu'un film est pensé du début à la fin, puis que si on met vraiment beaucoup de temps là, pour faire le logo, pourquoi pas, tu sais. Donc voilà. Alors Pascal, ton film préféré de la sélection de Prends ce cours 2020?
Physics of Sorrow version anglophone. Merci, bonsoir. j'ai même mis dans mon top 10, tu sais, de l'année.
Moi, tu en as parlé, j'ai deux podcasts.
C'est pour moi, c'est limite un chef-d'œuvre. Comme je te disais, je regardais ça, puis je pensais au Conte des Contes de Yuen Arstein, puis des films de cette ampleur-là. Puis, tu sais, ça me ramenait dans les Tarkovsky, puis dans ces affaires-là. Tu sais, j'étais vraiment bluffé, là, totalement, par ce film. Fait que Physics of Sorrow de Théo Wischeff.
Va falloir laisser passer un peu de temps, tu sais, pour savoir si c'est son chef-d'œuvre, parce que de toute façon, il est quand même relativement jeune, là, Théodore Chef, il va en faire d'autres, là. J'avais beaucoup aimé Gloria Victoria également. Je pense qu'il est rendu à un stade de sa carrière où, tu sais, il a fait beaucoup des trucs expérimentaux. Là, on dirait qu'il est rendu à vraiment la bonne balance avec des films qui sont, tout à fait novateurs et incroyables au niveau technique, mais également des films tellement universel au niveau du scénario, puis profond, puis riche, avec plusieurs couches de lecture. Tu sais, sûrement qu'il va encore nous éblouir, mais c'est vrai que ça sonne comme un sommet de sa carrière. Là. Rémi, ton film préféré de la sélection 2020?
Ah, ben, je l'avais quasiment spoilé, mais SDR, Alexa Jeanne de Dubé. Moi, j'ai vraiment...
C'est le seul film qui est sur nos trois listes.
Moi, j'ai capoté. Là.
C'est le seul film qui est sur nos trois listes.
Moi, c'est comme... Ça m'a vraiment acheté à terre. C'est un challenge technique qui est tellement impressionnant. Il y a tellement de préparation. Juste en pré-production, de prévoir comment tes plans vont s'entrecouper, comment ta mécanique du plan séquence, des split screens vont fonctionner, puis comment ça va servir ton histoire. Parce que ça pourrait être juste aussi un show-off technique, mais c'est vraiment bien fait avec le concept esthétique qu'elle a choisi, mais là, avec les propos aussi, ça sert les propos, ça donne la technique donne de l'émotion au personnage. Ça m'a vraiment jeté à terre. C'est toujours bon ce qu'elle fait, puis je trouve qu'elle surpasse à chaque film. Puis vraiment, là, bravo. Là.
Wow. mon film préféré de la sélection 2020 de Prends ce cours qu'on n'a pas encore mentionné jusqu'à présent. Puis s'il y avait quelque chose qui relie un peu toutes mes sélections, je me rends compte que ça a un rapport avec le lien au langage, puis une observation, tu sais, d'aller chercher la poésie où il n'y en a pas toujours pour justement, tu sais, se raccrocher à l'art quand la vie est difficile. Puis s'il y a un film, je trouve, dans la sélection qui fait ça de manière incroyable, d'un cinéaste que je suis depuis longtemps, que je respecte beaucoup, que j'admire, c'est bien Aniksha de Vincent Toi.
Ah ouais!
Ouais, c'est tellement bon,
ouais,
hein!
Ouais, ouais, ouais. Il était dans mes mentions, là, pour ce que ça vaut, là, aussi, je voulais le... Ouais, 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 ok, cool, cool, cool.
Sur une jeune femme de l'île Maurice qui vient tout juste de se marier, qui recherche un emploi, qui va rentrer rapidement dans un centre d'appel français, là. Elle va notamment suivre, tu sais, un peu des cours de linguistique avec une espèce de coach de cette compagnie-là du centre d'appel qui est joué par Laurent Lucas, un excellent comédien qu'on voit dans plusieurs courts-métrages ici. Mm-hmm. Et il y a tout, tu sais, il y a comme des rapports à la colonisation, ouais, des rapports de force entre les sexes, puis de quelle manière des fois on peut jouer de ces rapports-là, puis que les rapports changent justement lorsqu'il est peut-être temps de séduire ou d'obtenir ce qu'on veut. Puis c'est un film vraiment qui passe vite. T'sais, c'est un 20 minutes. Et ce film-là, j'avais l'impression de regarder un des meilleurs films de l'année, tu sais, de peu importe quel pays, là, tu sais. Ça me rappelait beaucoup, en fait, un segment de Mountains May Depart de Jazenke.
Ouais, ouais, ouais. Ben, tu sais, tantôt, en plus, tu parlais de Veracity Cool quand tu parlais de le film de Marianne Métivier. Fait que, oui, je vois, tu sais, puis je sais que tu sais, t'as toujours beaucoup aimé, tu sais, par exemple, le cinéma de Wu Xiaoshen ou de Tsai Ming-liang. Ouais, tu sais, ces cinéastes-là, là, il y a une certaine patience, mais qui est récompensée par vraiment une ambiance, une genre, on entre là-dedans comme dans un, tu sais, comme un gouffre, là, mais un beau gouffre, là, mm-hmm. Je sais pas comment dire de mieux, là, mais on dirait que ça fait du sens avec ce que je connais de tes goûts.
Ouais, puis c'est un film qui réfléchit sur notre époque, mais pas de manière, tu sais, appuyée puis grossière, puis tu sais, oh, le capitalisme, c'est mal, la globalisation, tu sais, c'est vraiment un film en retenue, et l'actrice principale, c'est une révélation, puis c'est difficile, ce genre de rôle-là, je trouve, à vraiment comme... Parce que, bon, puis ensuite, moi, je suis pas acteur, puis ça, puis bon, je suis capable d'apprécier, évidemment, une bonne performance, mais tu sais, c'est pas une performance spectaculaire, c'est vraiment une performance, tu sais, de quelqu'un qui doit toujours sourire pour subvenir à ses besoins, puis tu sais, qui peut jamais vraiment laisser exploser la rage qu'elle porte en elle, tu sais, au contraire, justement, de peut-être du personnage de « Je finirai en prison », tu sais, qui laisse un peu cette rage prendre le dessus. Donc, ouais, un film que j'ai trouvé... absolument incroyable, puis là, tu sais, avec un film comme ça, je suis comme, il est prêt à faire un long métrage, puis j'espère que ça va se faire une espèce de belle coproduction, là, un peu comme une Myriam Joubert, tu sais, que tu vois qu'elle a ce qu'il faut pour faire un film, puis c'est sûr que ça va arriver plus tôt que tard, là. Donc voilà, belle brochette de films, puis c'est clair que ces films-là dont on a parlé dans les dernières minutes vont se retrouver dans plusieurs festivals dans les prochains mois. On espère que les gens vont avoir la chance de les découvrir.
Ouais, puis on va savoir ce qu'ils remportent peut-être.
Ben oui, ça serait fou que ce soit pas un des films qu'on a choisi. ça serait cool. Mais en même temps, il y a beaucoup de bons films, tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de...
63, là, moi j'avais une liste de 15-16 que j'aurais parlé.
Ouais, facilement, là. Donc, on va suivre ça. Nous, on va aller au rendez-vous également pour toute la durée du festival, puis on s'en reparle au prochain podcast. Yeah. Donc, c'était notre point de vue. 205, mon nom est Paul Andrew, j'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante.